que l'œil.
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit. Ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut dépasser ton permis. Contre la colémie et ton fichier.
C'est un info.
La radio più ribelle.
Paniquez, paniquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout. Niquez tout.
Paniquez, paniquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu info du vendredi. Bonsoir, c'est 19h03 et c'est l'heure du Canu Info. Et aujourd'hui, de quoi on va parler ?
Eh ben, on va parler tout d'abord au local. Alors, on aurait pu parler de plein de choses au local, mais on va se restreindre au fait que, finalement, les fachos ne relâchent pas la pression à Lyon.
On va parler de la CAF et comment ils utilisent le numérique au service de l'exclusion et du harcèlement des plus précaires.
Salut.
Et puis, si comme la plupart, vous en avez marre de bosser, on vous parlera d'une brochure du bureau de désertion de l'emploi.
Ensuite, on vous parlera de Romain Dupuis, de l'hôpital à la perpétuité.
Et attention, attention, petit jeu de mots, Trainspotting ensuite, action Bravo. Directe.
Trainstopping.
Stopping, oh là là, putain, j'ai raté le jeu de mots. Voilà, action directe contre l'Andra.
Ensuite, à l'international, on va parler du féminisme iranien et on lira un petit extrait de La Déferlante.
Et puis, si vous avez manqué, alors on vous parlera du gaz de schiste,
non.
Mais en lien avec le Royaume-Uni et la démission de Liz Truss.
Et ensuite, on aura le traditionnel agenda pour terminer sur...
Ah, mais c'est ACAB, non ?
C'est ACAB, tout à fait.
C'est quoi ? Il faut
nous appeler.
Il faut appeler
pour ACAB. Ah oui, c'est ça, il faut redonner le numéro.
Alors, qui a des bons yeux ?
C'est moi, j'ai des bons yeux, je suis à côté. Donc 04 78 39 18 15. 04 78 39 18 15. Et ben c'est parti.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous êtes en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. En chantant, on résiste.
Et oui, oui, on chante, on résiste, mais finalement, il faut quand même résister aussi à l'extrême droite à Lyon. Je vais faire un petit truc un petit peu bien connu de l'extrême gauche avec un peu d'ironie comme ça. Là, on pourrait penser que, ce contexte, où du coup, en même temps, il y a des membres du gouvernement comme Darmanin qui peuvent avoir des propos complètement racistes et complètement sexistes. Peut y avoir un blanc-seing pour la police, peut y avoir toute une politique migratoire raciste. Et ben du coup, ça pourrait, on pourrait imaginer que ça ne profite pas à l'extrême droite. ben figurez-vous pas que si, en fait, justement, ça donne des ailes aux fachos, notamment à Lyon, qui, ben, on sait, voilà, Lyon, une ville d'extrême droite, avec plein de groupes d'extrême droite hyper implantés, mais du coup, ben, avec pas mal de personnes qui se font agresser, là, donc là, notamment le week-end dernier, deux agressions qui ont eu lieu. D'abord, il y a eu vendredi, un rassemblement qui était dans le Vieux Lyon où il y a un groupe de jeunes hommes qui se sont fait agresser par des militants d'extrême droite, et deux jours plus tard le piquet de grève des agents de service de la gare de Lyon-Perrache qui a été attaqué aussi, quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est vendredi, en fait, il y avait un rassemblement pour dénoncer l'incarcération là du militant Georges Ibrahim Abdallah, libanais, qui est emprisonné en France depuis 40 ans, et du coup il y avait un rassemblement devant le tribunal des 24 colonnes là à Saint-Jean dans le Vieux Lyon, qui du coup est connu pour être le quartier plutôt des fachos. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, il y a eu le rassemblement s'est passé avec un peu quand même des personnes qui regardaient. Il y avait un peu des jeunes un peu chelous qui regardaient un petit peu le rassemblement. À la fin du rassemblement, la majorité des personnes s'en vont. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est organisé par Collectif 69 Palestine, qui est du coup un collectif où il y a majoritairement des personnes âgées, blanches, qui partent à la fin du rassemblement. Il y a un groupe de 7-8 militants plus jeunes et racisés qui s'en vont aussi à la fin du rassemblement, alors qu'ils sont en train de traverser la passerelle entre Bellecour et le Vieux Lyon. D'un coup, il y a une vingtaine de personnes cagoulées avec des pattes de baseball qui leur courent après. Il y en a une partie qui arrive à se planquer dans un bar, et il y en a un autre par contre qui se retrouve tout seul en direction de Bellecour, et qui se retrouve face au facho qui s'est fait éclater. Le seul moment où les fachos sont partis, c'est parce que tous les témoins qui étaient autour ont commencé à gueuler. Mais il y a quand même du coup un jeune qui s'est fait a priori péter les dents et qui a plusieurs jours d'ITT. Donc ça, c'est vendredi. Et en même temps, dimanche soir, en fait, il y a un piquet de grève, parce qu'en fait les agents nettoyage de la gare de Perrache sont en grève. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est ça, c'est que les gens du nettoyage sont en grève, c'est sur un autre papier, c'est pour ça que je me perds. Ils sont en grève, pourquoi, les agents du nettoyage? Et du coup, il y a déjà la CNTSO, la CGT, FO, la CFDT, qui sont en grève générale et illimitée pour maintenir leurs emplois, parce qu'il y a la volonté de mettre un marché réservé, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres et tout, ce qui fait que il y aura plus que que des personnes qui sont en insertion par l'activité économique qui pourront bosser là-bas, alors même que il y a déjà de nombreuses entreprises qui sous-traitent, enfin en fait la métropole sous-traite à de nombreuses entreprises, et du coup un certain nombre de personnes qui bossent là-bas, et le but du coup est un peu de virer les personnes, enfin de plus embaucher ces sous-traitants, et ce qui va faire qu'il y a plein de personnes qui sont en train de faire les agents de nettoyage de la gare routière de Perrache vont perdre leur travail, et en même temps ils en profitent pour avoir des augmentations de salaire. Donc ça, c'est pour ça qu'ils sont en grève. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'il y a une vingtaine de fachos qui, pareil, se pointent au piquet de grève, et qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent juste le local de la CNTSO. Et du coup, ils volent. Mais il y avait juste deux personnes qui étaient au piquet de grève. Donc bon, deux personnes n'ont rien fait. Et les vingtaines de fachos ont pris les banderoles, les drapeaux, les tracts, sont partis avec. Alors pourquoi la CNTSO? Parce qu'en fait, à la CNTSO, majoritairement, c'est des personnes racisées qui sont là-bas, et c'est pour ça qu'a priori les fachos auraient attaqué ces personnes-là, parce qu'ils ont rien fait pour la CFDT, par exemple. Alors, si jamais on avait envie de taper une personne, par moi personnellement, ça serait plutôt Laurent Berger. Je suis désolé, mais voilà. Faut croire que les fachos et moi, on n'est pas pareil, et c'est peut-être pas pour rien finalement. C'est peut-être pas pour rien. Mais quand même, une bonne nouvelle parmi tout ça, parce que voilà, donc il y a des groupes de fachos qui se baladent, il y a, avec notamment l'histoire autour de Lola, des discours par les fachos, mais aussi par les membres du gouvernement dans les médias qui sont vraiment dégueulasses. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un petit rigolo qui... c'est quand? Ah mince, je sais pas quand c'est la semaine dernière.
Je crois que
c'était
jeudi soir.
Jeudi soir, voilà,
je crois.
Exactement. Jeudi soir. Il y a un gars qui a escaladé le muret du commissariat de police du 1er et 4e arrondissement. Alors je dis où il est vraiment là, vous voyez en face de l'opéra, il y a un commissariat, c'est là. Vers 22h30, il a sauté le mur et il est allé décrocher le drapeau tricolore qui était installé sur la façade. Donc ça, voilà, bravo monsieur, très bien. Et ensuite, il a été repéré par les caméras de surveillance. Bon, c'est vrai que c'est pas le meilleur, on pourra lui dire très bonne idée, mais pas le meilleur endroit pour pas être repéré par les caméras de surveillance. Et par contre, il y a ensuite des témoins qui ont raconté que le gars se baladait avec le drapeau de partout et demandait un chalumeau pour mettre le feu au drapeau. Donc, très bonne idée. Bravo. Bon, il a malheureusement été interpellé et il a pas pu incendier le drapeau. Enfin, en tout cas,
L'histoire dit pas du. Enfin, l'histoire dit qu'il a pas pu le. Personne n'avait de chalumeau sur lui ce soir-là.
Et oui, c'est ça. Le problème est que personne n'a de chalumeau dans la rue. Voilà. En tout cas, voilà. Lyon, c'est pas super, mais ça peut être super quand même.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, il y a 15 jours, on vous parlait de Pôle emploi. 15 jours avant, on vous parlait du RSA, on vous a parlé de fichage numérique, etc. Et bien, tout ça, et ben, en vrai, c'est pas du tout fini. Alors, vous vous demandiez quand même comment est-ce qu'on fait pour contrôler tout cet argent qui reste dans les poches de l'État, parce qu'il y a un tiers des gens quand même qui ne demandent pas leurs aides sociales, et c'est quand même des sacrées sommes. Et bien, en tout cas, pour l'argent que l'État verse, là, on est prêt aussi à dépenser des sacrées sommes pour aller surveiller au cas où il y ait quand même des gens qui arriveraient à gratter 450 balles de RSA, parce que là, quand même, l'État français aurait quand même du mal à s'en remettre après avoir versé des 160 milliards aux entreprises. Et bien, rassurez-vous, à la CAF, on est à la pointe de la technologie, on est vraiment un pays extraordinaire, et du coup, maintenant, on a des algorithmes. Alors, les algorithmes, c'est super, parce que quand on dit algorithme, on imagine que tout le monde est teubé et personne n'y pige rien, et du coup, on peut dire ça et faire comme si c'était une espèce de merdier mathématique, un truc comme ça de grosses têtes auxquelles personne ne pigerait rien et qui fait des trucs qui seraient justes parce que finalement les mathématiques a priori n'ont pas de position politique prédéfinie. Du coup à la CAF il y a un bel algorithme donc qui sert à pouvoir mieux identifier les personnes qui seraient dignes ou plutôt indignes de confiance et en gros les potentiels fraudeurs et fraudeuses. Donc derrière ce truc là en vrai du coup un algorithme c'est jamais neutre, ça a toujours été programmé, enfin en tout cas écrit par des personnes et du coup il y a forcément des colorations politiques. Je vous laisse deviner un peu celle qui concerne l'algorithme dont on parle là. Donc pour avoir une note élevée, ça veut dire être à très gros risque d'abus selon la CAF. Du coup, il faudrait avoir des revenus faibles. C'est vrai que souvent, quand on touche la CAF, il peut y avoir un lien de causalité. D'être au chômage ou de ne pas avoir de travail stable, parce que quand on ne bosse pas, on est forcément un voleur. D'être parent isolé. On rappelle qu'il y a 90 parents isolés qui sont des femmes, par ailleurs. De dédier une part importante de ses revenus pour se loger. Ou d'avoir des nombreux contacts avec la CAF. Donc, en gros, il faut être pauvre, globalement, et ou avoir peut-être des difficultés à comprendre les démarches administratives. On vous laisse deviner qui ça concerne. Donc ça, c'est sûr, ça vous fait une note, vous allez frauder XXL. Bon, alors, il y a d'autres paramètres, on ne sait pas trop comment ils fonctionnent, mais on note, entre autres, que, par exemple, le fait d'être né hors de l'Union européenne, c'est un paramètre. On ne sait pas de quoi, mais a priori, c'est autorisé de dire « c'était pas de l'UE, t'as pas la même note que des gens qui sont nés dans l'UE ». Bravo, 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 la CAF. Mais alors le pire que ça, c'est quand on interroge la CAF, en fait ils s'en vantent, ils trouvent ça extraordinaire et que ça fait partie, je cite, d'une politique constante et volontariste de modernisation des outils de lutte contre... j'ai tout raté cette belle phrase. Politique constante et volontariste de modernisation des outils de lutte contre les fraudeurs et les escrocs. Parce que ces salauds d'escrocs qui volent une fois encore les 450 balles de RSA, il faut quand même y mettre les moyens. Donc en gros, tout le discours de la CAF, c'est de dire qu'on va sauver l'argent public en empêchant les gens de toucher les trucs, sachant que des fois, ils sucrent. Juste comme ça, il y a un truc qui va pas. Par exemple, vous connectez hors de France si vous utilisez un VPN ou des trucs comme ça, parce que vous en avez un petit peu marre d'être fiché par tous les services de renseignement, j'ai dire de France, mais aussi de Navarre par ailleurs. Du coup, on peut vous sucrer les allocs comme ça, d'un coup d'un seul, ça disparaît, parce que tu t'es connecteur de France, on considère que tu n'habites pas en France. On voit cette grande connaissance des gens qui font des algorithmes, de la technique par ailleurs. Et donc, ils se vantent de ça, et surtout, une fois encore, en vantant ce truc, en disant, mais c'est un score de risque, du coup, c'est très très bien, c'est un algorithme qui décide, comme ça, il n'y a plus de préjugés, il n'y a plus vraiment de problème, parce qu'avant, peut-être, il y avait des biais racistes qui pouvaient intervenir. Là, c'est l'algorithme, tout va bien. En fait, l'algorithme, il est raciste, du coup, c'est vachement fastoche. Maintenant, on peut dire, ah bah tiens, c'est l'algorithme, mais moi, je suis pas raciste. Ça, c'est la nouvelle excuse de la CAF. Voilà, donc on rappelle qu'il y a quand même des gens qui dépendent grave de la CAF pour pouvoir juste payer leur loyer et bouffer, ce qui est quand même pas négligeable. Et malgré tout, on peut quand même considérer que cet algorithme-là et ce truc de défense, en plus de ça, permet de ficher évidemment les personnes qui sont entrées dans le logiciel avec des accès de plus en plus importants. Parce que maintenant, pour vérifier que vous êtes des escrocs, on a le droit d'aller regarder vos comptes bancaires. D'ailleurs, il y a un délire de... Ah, j'ai oublié quel ministre. Là, il commence à parler au Sénat. C'est pas un ministre, du coup, c'est un sénateur qui disait, ah, mais quand même, il faudrait limiter. Si vous avez 20 000 balles de patrimoine, c'est pas énervé, 20 000 balles. Hein. Enfin, ça va quand même relativement vite. Ça veut dire que l'ouvrier qui est en train de payer sa maison, au bout d'un moment, il a 20 000 balles de patrimoine. Bah, du coup, t'as plus le droit au RSA, par exemple. Donc ça, c'est un peu dans leur dire, mais du coup, maintenant, on a le droit d'accéder à toutes vos données. En tout cas, on remercie une fois encore la CAF et tous les abrutis qui essaient de nous faire croire que leurs algorithmes sont neutres et servent à protéger les biens communs pour ces grandes performances.
Et oui, et comme on a vu que grâce au Pôle emploi et à la CAF, c'est galère de pas travailler, mais il y a quand même des gens qui ont pensé à tout ça et qui ont produit une brochure. Qui s'appelle le Bureau de désertion de l'emploi. Alors, on peut trouver cette brochure sur... Alors...
Internet.
Je l'avais.
Sur les internets. En tapant sûrement Bureau de désertion de l'emploi, et sinon, c'est sur bdt.ouvaton.org. Et moi, je vais lire juste le petit résumé qu'on a trouvé sur Rebellion. Voilà. Donc, le très officiel Bureau de désertion de l'emploi est né du constat qu'on manque d'outils pratiques sur la sortie de l'emploi. Le principe de l'emploi n'est pas très critiqué en général, même dans le milieu militant de gauche radicale. C'est souvent vu comme un truc personnel et privé, au contraire du capitalisme qui, lui, est ouvertement critiqué. Pourtant, de la critique du travail en théorie, il y en a, en veux-tu, en voilà. Mais après avoir lu Bullshit Job de David Graeber, Boulot de merde de Julien Brigaud et Olivier Siran, Manifeste contre le travail du groupe Crisis, etc., on n'est pas très avancé pour sortir concrètement de l'emploi dans nos vies, ou plutôt sortir l'emploi de nos vies une bonne fois pour toutes, même l'emploi alternatif. Parce que les boulots ultra précaires dans l'associatif avec pas trop de respect du code du travail et une abnégation forcée, ça va 5 minutes, c'est pas forcément hyper satisfaisant. Pareil pour le piège de l'économie sociale et solidaire qui n'est qu'une forme d'économie capitaliste, etc. Ou encore l'auto-entrepreneuriat qu'on veut nous imposer du coup un peu du type exploite-toi toi-même. Et en vrai, il y a plein de personnes qui ont plein de bons tuyaux pour se démerder, pour échapper le plus possible en tout cas au monde du travail, mais c'est pas simple, et puis on n'est pas tous sur le même pied d'égalité, en fonction de nos origines sociales, de nos santé, notre classe, notre race sociale, notre âge, notre situation administrative, notre genre, nos capacités, etc. On peut plus ou moins se le permettre. Parce que l'emploi occupe une place centrale dans nos sociétés, cela ne se résume pas à la question économique, avec le salaire comme moyen de subvenir à ses besoins. De subsistance, pardon. L'emploi a aussi une fonction sociale ou d'utilité sociale, et qui apporte une forme de sécurité en échange du temps qu'on lui donne. Donc sortir de l'emploi, c'est dépasser certaines peurs, donc quand même la peur de ne pas avoir de logement, de ne pas manger à sa faim, de se retrouver isolé, de s'ennuyer aussi, et la pression sociale. Et à l'heure actuelle, suite aux mesures mises en place au nom du Covid, de plus en plus de gens remettent en question le travail et son utilité, son sens dans une société capitaliste et individualiste, oppressive et occasionnant des démissions massives. On assiste même à des appels à déserter, comme certes de professions au statut social élevé, comme les ingénieurs et ingénieuses de AgroParisTech. Aujourd'hui, le gouvernement parle de 15 heures de travail hebdomadaire pour les allocataires du RSA, comme on en avait parlé. On avait parlé la semaine dernière aussi de ce truc du Pôle emploi où d'ailleurs les abandons de poste seront bientôt considérés comme des démissions. Donc pas de chômage derrière. Donc voilà, donc là il y a toute cette brochure qui est sortie, qui donne des petits éléments pour s'en sortir. Donc il y a deux parties. Il y a une partie qui parle un peu de comment on se débrouille face à l'administration. Parce que sortir du travail, bah, c'est pas sans contrepartie. Parce que comme on vient de parler par exemple de tout un fichage aussi, on est fiché, donc évidemment s'il y a des contrôles, ce sera certainement on sera certainement les premières personnes à être inquiétées.
Enfin, plutôt si on vient pas de l'Union Européenne, encore plus.
Ah oui, en plus, il y a ça. Selon notre score du coup de risque.
Voilà, il faudrait qu'on puisse faire une simulation de notre score de risque, finalement.
Oui, c'est ça. Ce qui est pratique. Mais bon, l'algorithme, il est tout à fait juste, alors on peut espérer que du coup.
Normalement, il n'y aura rien de discriminatoire. Hein. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, ça a l'air vrai. Voilà.
Et après, il y aura une partie 2 qui parle de comment on s'entraide en fait, collectivement pour les questions de survie matérielle et économique. Voilà. Donc, si on a besoin de temps, voilà, c'est même pas que pour ça, mais si en tout cas on a envie de prendre du temps, de l'énergie pour militer, pour aider ses proches ou faire ce qui nous plaît, ou etc., et ben, cette brochure, elle peut donner plein de petits trucs. Il faut aller voir ce qu'elle dit. Voilà. Et ça me fait penser aussi qu'à Lyon, il y a la brigade des fauchés. Qui fait leur permanence, je crois, alors je dis peut-être des bêtises, tous les deux fois par mois. Alors, donc les internets sauront dire plus précisément les jours et les horaires.
Et c'est à la Lutine.
Oui, c'est ça. Du coup, c'est à la Lutine. Et peut-être on pourra faire venir quelqu'un qui nous raconte tout plein de choses là-dessus, un de ces quatre. Voilà.
Et ben, sur ces belles paroles, on va se mettre un petit morceau de musique. Et c'est Grâce et Volupté, avec le titre Blaireau Vivant. Voilà, c'est parti.
Ça va se finir, c'est statistique. Soyons uniques, quelques minutes, on se fera plus, on joue de la flûte. Je crois que cette fois je m'en remets pas, je prends un cachet pour un coma. Je mobilise toute ma mauvaise foi, je vais mettre toute la faute sur toi. La vérité, je suis un chien, plus aucun intérêt restreint. Ça tourne comme un refrain, je te toucherai plus avec mes mains. Ça boit comme une connasse, le coup de lever toute la journée. Perdu mon centre de gravité, raté, je suis tombée. Abandonnée par mon papa, j'ai longtemps écouté Vita. Des excuses préparées, comportement déterminé. Dans ma mort, j'aime me rouler, je suis ma victime préférée. Grandis un peu ma vieille, tu vas finir dans la bouteille. Ça y est, je me suis perché, tu pourras plus m'attraper. J'ai la beuge et j'ai le vertige, il faut que j'apprenne le lâcher prise. Aucune mesure, il faut que j'arrête. Des sentiments avec le sexe, rapidement je suis sur ex. Fais ce que tu veux avec mes doigts, tant que je peux te serrer dans mes bras. Tu veux pas vivre avec moi, tu sais je change souvent mes draps. Continue, on y est presque, je veux devenir ta future ex. Ne crois pas que je sois acquise, le cœur fondu comme la banquise. J'ai la buzz et j'ai le vertige, il faut que j'apprenne le lâcher prise. Je suis bloquée dans le décor, pixelisé, y'a plus de trésor. Autour le monde s'écroule sans toi, j'ai des problèmes, confiance en moi. Je tourne dans mes schémas, je vomis du sang dans mes dramas. Je me roule en boule et je m'endors pas, je veux pouvoir rire de tout ça. Dans ma tête c'est tout pété, depuis quand j'ai plus envie. Je veux retrouver ma légèreté, ça va se finir en thérapie. Dans ma tête c'est tout pété, ça va se finir en thérapie. Faut que je prenne rendez-vous demain, ça tourne comme un refrain.
Il m'en reste
Et après cette musique lancinante, on va vous parler.
C'est un truc. C'est-à-dire, t'as l'air d'extrême gauche, tu marines. Tu manies vraiment bien l'ironie, j'ai l'impression.
Ah, c'est, il faudrait pas rire parce qu'on va, vous parler de Romain Dupuis et c'est quand même pas hyper marrant ce qui lui arrive à lui. Alors pour rappel, je pense que vous en aviez entendu parler parce que ça a été hyper relayé à un moment. C'est un type qui a eu les termes techniques on dirait une décompensation psychotique, en bref il a pété une pile et effectivement il a buté deux personnes et ça c'était en 2004. Du coup Romain Dupuis, il a été jugé et il a été reconnu irresponsable pénalement. Et c'est là qu'est arrivée toute la magie de l'administration et du soin. C'est-à-dire quand on est irresponsable pénalement, mais quand même on a buté des gens et accessoirement il avait tiré sur des keufs, ce qui n'a pas dû améliorer sa situation et ce qui ne doit toujours pas l'améliorer. Donc il a eu bénéficié d'un non-lieu psychiatrique qui dit qu'en vrai il ne pouvait pas être jugé et pas être puni pour ses actes, mais que quand même ça craignait, donc on l'a collé en UMD. Alors UMD, ça veut dire unité de malade difficile. En gros, ces espèces de pseudo-prisons administratives qui sont dans les hôpitaux psychiatriques avec un taux d'encadrement méga costaud, une surveillance 24 heures sur 24, c'est quand même bien hardcore. Et souvent, quand vous entendez, quand vous voyez des reportages de merde sur la psychiatrie, c'est ça qu'ils aiment bien filmer parce que ça les fait rigoler. Il y a des barbelés, des grillages. En gros, c'est une tôle dans un hôpital, quoi. Donc voilà, donc ce gars-là, il a quand même pété une pile un jour, et en vrai, on peut quand même rappeler que, en fait, avant ça, il avait sollicité des services de psychiatrie, il avait demandé de l'aide parce qu'il sentait que ça commençait à partir en couille un peu dans sa tête, et il avait sollicité de l'aide à différents services de psychiatrie qui ont toujours trouvé que c'était peut-être pas si grave et qu'il avait bien qu'à se débrouiller un petit peu tout seul. On voit le résultat, il y a quand même deux personnes qui sont mortes après tout ça. En tout cas, et ben voilà, en 2004, il s'est donc fait placer en UMD, donc à Cadillac. L'hôpital est particulier par ailleurs. Et depuis 2018, lui, il se sent mieux et du coup, il a demandé à être transféré dans d'autres services. C'est-à-dire que le gars, il demande pas à aller se promener dans la rue pour le plaisir et à reprendre une vie normale. Il demande juste à être transféré dans un service qui soit moins sécurisé. Toujours sous contrainte par ailleurs. Du coup, ça demande d'être quand même pas énervé en termes de liberté. Seulement, il voudrait pouvoir être dans un service où il a le droit de sortir un peu de temps en temps sans être accompagné par deux soignants-soignantes. On y reviendra juste après. Donc, quand il fait sa demande, en gros, bon, ça passe par tout un procédé. Il voit d'autres psychiatres, d'autres services qui doivent évaluer son état, etc., etc., etc. Donc là, jusqu'à maintenant, bah, ça fait 4 ans que tous les médecins, en gros, disent que... Alors, je ne sais pas si le terme « guéri » pourrait correspondre au langage des médecins, mais qu'en tout cas, il est stable, il est conscient des actes, je cite, très conscient des gages qu'il doit donner dans l'hypothèse d'une sortie vers un pavillon traditionnel. Donc, en gros, ils disent qu'il n'y a absolument aucune raison de garder ce gars enfermé dans une UMD et que d'un point de vue médical... A priori, il aurait tout autant sa place, selon les psychiatres, toujours dans des services habituels. Seulement, bah, en fait, il y a de la place nulle part, et parce qu'à force de s'aborder l'hôpital, du coup, ça fait 4 ans qu'il demande, ça fait 4 ans que tout le monde dit que tout va bien, et qu'en vrai, il pourrait être dans n'importe quel service, et ça fait 4 ans qu'il est kéblo en UMD. Alors, il y a aussi le petit jeu que de temps en temps, quand même, il y a la préfecture qui vient mettre son grain de sel parce qu'il y a des histoires de meurtres, tout ça, ça les intéresse. Et on peut une fois encore rappeler qu'il a tiré sur des keufs et que ça, on imagine que ça leur fait grincer des dents. Et que du coup, il y a un moment où il était à ça de sortir, il était sur le point de sortir de l'UMD et c'est quand même la préfète, donc Fabienne Buxio, on peut la nommer pour l'occasion, qui a refusé son transfert en avançant le fait qu'il faudrait trouver, je cite, une équipe médicale particulièrement attentive et solide. Alors, on imagine la grande expertise des équipes soignantes au sein d'un hôpital, au sein d'un service d'un hôpital de cette brave préfète. En bref, elle y connaît rien, elle avait juste pas envie qu'il sorte. Alors, faut quand même dire que habituellement, quand on passe en UMD, il y en a pas de partout et du coup, à la sortie de l'UMD, c'est plutôt un retour dans l'hôpital d'origine. Bon là, effectivement, dans les personnes malheureusement qu'il a tuées, il y avait une infirmière de l'hôpital de Pau. Du coup, on imagine que c'est pas fastoche de le renvoyer là-bas. Ça, pour le coup, c'est bien compréhensible. Mais par ailleurs, lui, ça le met bien dans la merde. Il y a aussi un chef de service, un peu moins con que les autres, a priori, d'un hôpital de Bordeaux, qui avait dit « Ok, c'est bon, il peut venir dans mon service, il y a une place, et moi, on est d'accord pour l'accueillir, etc. » Alors déjà, c'est quand même un délire, hein, de se dire que c'est les chefs de service qui disent « Je suis d'accord pour l'accueillir, a priori un service de soins. » On n'est pas en train de demander à l'avis des médecins s'ils veulent soigner des gens. C'est plutôt l'inverse qui devrait se passer. Mais bref, ce type-là, moins con que les autres, était d'accord. Mais finalement, c'est la direction de l'hôpital qui a dit que non, il ne pourrait pas sortir de l'UMD, il ne pourrait pas venir chez eux. Donc ça, c'était en septembre 2020, en justifiant que l'hôpital, je cite, n'a jamais souhaité orienter son offre de soins sur la prise en charge des patients ayant de lourds antécédents médicaux judiciaires. Donc en gros, à cause de son passé, on refuse clairement de le soigner. Et une fois encore, c'est le directeur de l'hôpital, dont on ne sait pas quelles sont ses qualifications, et à vrai dire, on s'en fout, qui décide que Romain n'a pas le droit à des soins et n'a pas le droit de sortir de l'UMD. C'est Romain après qui témoigne et qui nous explique qu'au début, en fait, il y a eu le non-lieu psychiatrique. Il s'est dit, putain, c'est bien, en fait, je vais pouvoir... Lui, en tout cas, il était DAC pour s'engager dans un processus de soins au sein d'un hôpital et qu'il allait pouvoir un peu se remettre, sortir et pouvoir reprendre une vie normale pour autant que ça veuille dire quelque chose. Et en fait, là, il se rend compte que l'UMD, c'est encore peut-être pire que la tôle, en tout cas d'un point de vue légal et administratif, en termes de recours, il y a vraiment queude. C'est-à-dire qu'il est kéblo dans l'UMD et il n'a aucun moyen de sortir. Et en vrai, il y a moins toutes les... protection, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a moins de recours qui sont possibles et jouables depuis l'UMD que depuis la prison. Du coup, lui, il parle de comment il a pris perpète, parce qu'en vrai, il a été jugé, il y a eu un non-lieu, il est irresponsable de son acte, mais il continue d'être enfermé, donc depuis 2000... Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Depuis 2004, il est enfermé en UMD, et en vrai, là, il demande à sortir. Tout le monde dit, c'est ok pour que tu sortes, mais n'empêche que le fait est qu'il sort pas, ce gars-là. Et il se retrouve vraiment complètement en galère. Son avocate est complètement démunie, parce qu'en vrai, elle a pas moyen de faire de recours. Alors, si on parle aussi de Romain, c'est qu'il y a un fait assez exceptionnel qui est arrivé. Alors, c'était fin septembre, ça. Où c'est des patients, des patientes ou des tolards, on ne sait pas comment il faut les appeler, du MD, qui ont écrit un courrier, une lettre ouverte en direction évidemment du ministère de la Santé et de la direction de leur hôpital. Alors c'est hyper rare de voir, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un regroupement collectif de patients-patientes en UMD pour écrire. Et alors, c'est un peu particulier, mais ils défendent les professionnels de santé, donc qui les accompagnent au quotidien, en expliquant qu'en vrai, de toute façon, ils sont dans la merde, il n'y a plus de soignantes, en gros, il n'y a plus personne pour bosser là-bas, sauf qu'en vrai, comme c'est des UMD, c'est une surveillance 24 heures sur 24, et que du coup, ils se retrouvent avec des personnes qui sont censées les aider et les accompagner dans un pseudo-processus de soins psychiatriques, mais qui du coup sont épuisées, doivent se remplacer les uns les unes les autres, parce qu'en vrai, tout le monde est en burn-out et plus personne n'est capable de bosser, et ça, déjà, c'est le merdier au quotidien d'avoir des personnes épuisées. Mais c'est surtout que quand on est en UMD, en vrai, de vrai, pour pouvoir aller voir dehors, faut être accompagné par deux personnes. Du coup, moins il y a de gens pour bosser, en vrai, moins on peut sortir, parce que forcément, un patient tolard pour deux soignants-soignantes, c'est quand même un gros encadrement. Et du coup, en fait, c'est des gens qui sortent plus du tout, qui sont vraiment enfermés dedans, dans cette espèce d'enceinte. Vous pouvez aller voir au Vinatier, ça dit c'est ouvert, vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble l'UMD. Vous rentrez dans le Vinatier, c'est tout au fond à droite. C'est vraiment une tôle dans un hôpital. Et ensuite, vous avez accès à la ville. Mais il y en a des murs, en fait, avant de pouvoir sortir de ces merdes-là. Et du coup, eux, ils se retrouvent kéblo là-dedans. Et finalement, ils ne peuvent plus en sortir à cause des soignants, à cause du manque de soignants et de soignantes. Pardon, j'ai failli. Et le fait est qu'en termes d'humanité au quotidien, ils sont face à des gens qui sont épuisés et en burn-out complet et qui ne savent pas non plus comment lutter contre leur direction. Donc, on imagine à quel point c'est dégueulasse.
Et alors, laissez-moi pour continuer, s'il vous plaît, citer Medine qui dit « Si j'étais personnel soignant, je serais déjà radicalisé ». Et il y en a d'autres qui se radicalisent contre l'ANDRA et notamment du coup le projet CIGEO, l'enfouissement des déchets radioactifs du nucléaire à Bure. On a trouvé un petit communiqué d'Action Directe qui mange pas de pain mais qui est un peu drôle et qu'on avait envie de vous partager, qu'on a appelé Train Stopping, petit jeu de mots à nouveau, ça correspond à titre d'une exposition d'une brochure qu'on a trouvé où ça parle d'Action Directe contre les trains. Et donc ce communiqué s'appelle « Quand le cric craque le rail ». Et donc on va vous le lire.
Tsapoum.
Andra, barre-toi, on est sur la bonne voie.
À nos amis les sales gosses, on voulait raconter une de ces belles soirées étoilées.
En petit crew, on est parti de nuit. On a marché, un tout petit peu crapahuté, on s'est baladé. Un peu préparé qu'on était, tout avait été bien repéré. On a rigolé, bon pas trop chantonné, on était peut-être quand même un peu stressé. Mais même si on se voyait à peine, on vous promet, ça smilait.
Et on a trouvé sur notre passage une voie de chemin de fer, par le plus grand des hasards. Alors, avec les moyens du bord, un rail a été quelque peu endommagé. Oups, très patiemment, tranquillement, et avec toutes les précautions, on a attendu petit à petit que le cric craque le rail, vous retrouvez le titre là. Et puis on est reparti tranquillou sans laisser de traces.
Et non, on s'est pas trompé d'endroit, on est bien sur la bonne voie. Celle de 35 km de long entre Nançois et Grondecourt, le château. Celle qui devait être réhabilitée pour ramener le matériel pour CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs dans le coin de Bure. Puis qui transporterait ensuite les déchets radioactifs deux fois par semaine pendant 150 ans.
On a laissé une petite trace de notre passage, un léger embêtement pour eux le jour où il veut les réhabiliter ces rails. Mais c'est quand même un petit embêtement parmi d'autres. La voie est longue, le temps sera long, très long. Maintenant ou dans le futur, il y en aura bien des rails à craquer, pour faire plus que les embêter.
On est ressorti de tout ça bien remotivé. Tout d'un coup, on se sentait plus forte face à toute cette folie nucléaire. Et c'était pas si compliqué. Un peu de préparation, un peu de concentration, un peu d'adrénaline et le tour est joué. Franchement, essayer, c'est hyper rigolo. Comme on dit, plus on est, plus on rit. Plus on sera là, moins JGO ira. Rira.
Non, il y a un problème.
J'ai merdé la fin.
Non, mais c'est faut se dire qu'il y a marqué JGO, en fait, c'est CIGEO, c'est vrai que c'est pour ça que j'étais CIGEO. Ouais. Voilà. Attends, on refait. Non, plus on est, plus on rit.
Plus on sera là, moins JGO sera. Il rira.
Ah merde. Bon, ça termine par à vos crics, les amis.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et maintenant, on va parler de l'Iran. Ça fait un peu plus d'un mois qu'il y a un soulèvement, qu'il y a de la jeunesse dans la rue, enfin pas que la jeunesse. Et puis bah, ça, c'était suite à l'assassinat de la jeune Mahsa Amini par la police religieuse. Et là, c'était le texte qui va suivre, c'est des propos qui sont recueillis par une anthropologue franco-iranienne qui s'appelle Shoura Makaremi et qu'on a trouvé dans une revue féministe qui s'appelle La Déferlante et qui nous raconte un petit peu plus en détail cette manifestation des femmes contre le port du voile, mais qui s'est transformée en fait en un large mouvement contestation sociale et que elle appelle un cas d'école de convergence des luttes. Donc Zina Mahsa Amini appartenait à la minorité kurde qui est extrêmement discriminée en Iran. D'ailleurs, son vrai prénom est un prénom kurde, Zina, que l'État refuse d'enregistrer. C'est important pour comprendre les circonstances de sa mort. J'espère que je ne le dis pas mal, mais Zina Mahsa n'était pas plus mal voilée que la majorité des filles à Téhéran, mais celles qui sont originaires de la capitale savent où aller pour éviter les contrôles, comment se comporter avec les agents, à qui donner de l'argent, qui appeler en cas de problème, etc. Les protestations ont commencé le soir des funérailles de la jeune femme dans la ville de Sakez. C'est de là qu'est parti le slogan en langue kurde « Femme, vie, liberté ». Une devise politique inventée au sein du Parti des travailleurs kurdes, le PKK, d'Abdullah Öcalan, dans lequel certes les femmes n'ont pas toujours été suffisamment représentées, mais qui a théorisé que la libération du Kurdistan ne se ferait pas sans elles. On note au sujet du mot « vie », contenu dans le slogan que je viens de dire, que beaucoup de jeunes manifestantes et manifestants donnent littéralement leur vie pour le changement de régime qu'ils réclament. Quand Zina Mahsa est morte, les premières images d'elle qui ont été diffusées la montraient en robe rouge en train d'exécuter une danse traditionnelle qui témoigne d'un culte de la joie qu'on retrouve sur tous les comptes Instagram ou TikTok des manifestantes tuées auparavant. La dimension principale de cette révolte est le refus du voile, qui est la matérialisation de ce que les féministes iraniennes appellent l'apartheid de genre. Un ensemble de discriminations économiques, culturelles, juridiques, qui sont inscrites dans les lois du travail ou l'héritage. Mais ce mouvement veut aussi mettre fin à d'autres discriminations, par exemple celles contre les minorités comme les Baloutches, les Arabophones, les Baha'is ou encore les réfugiés afghans de deuxième génération qui n'ont jamais pu avoir la nationalité iranienne. Le mouvement féministe iranien existe depuis 30 ans et il est très puissant. La prix Nobel de la paix en 2003, Shirin Ebadi est une femme, tout comme les détenues emblématiques du régime. Ces militantes ont été entraînées à une lecture juridique du système de domination et leur doctrine constitue la colonne vertébrale de nombreuses formes d'activisme. Comme théorie et comme méthode, le féminisme intersectionnel iranien permet aujourd'hui de comprendre comment, pour la première fois depuis 40 ans, des segments de la population qui n'ont jamais été solidaires en fait se soulèvent en même temps. Il ne s'agit pas uniquement de manifestations pour le droit des femmes. Les hommes originaires de quartiers populaires descendent aussi dans la rue pour protester contre la vie chère. Ceux originaires du Kurdistan manifestent pour ne pas être victimes de violences. Il faut aussi avoir en tête l'appauvrissement rapide de l'Iran, où les classes moyennes sont réduites à peau de chagrin en raison du Covid, des sanctions internationales et de la corruption. Tous ces éléments sont à comprendre en fait ensemble. Finalement, le voile n'est devenu une demande de premier plan que lorsque ces dernières années, les féministes sont arrivées au bout des revendications réformistes possibles. C'est ainsi qu'est né l'activisme quotidien sur cette question qui constitue un des piliers de l'ordre théocratique, une façon de rappeler à toutes les Iraniennes que le pouvoir s'inscrit sur les corps. En 2018, les filles de la rue de la Révolution, défendues par l'avocate Nasrin Sotoudeh, se sont mises à manifester avec un voile blanc porté non pas sur la tête, mais au bout d'un bâton. Elles ont écopé de 15 ans de prison et sont encore détenues aujourd'hui. Ce que montre le soulèvement de l'Iran, c'est que le féminisme n'est pas uniquement un outil intellectuel qui permet de revendiquer l'égalité à l'intérieur d'un état de droit, mais qu'il peut être une force de contestation révolutionnaire. Opposer les manifestantes iraniennes qui enlèvent leur voile aux françaises musulmanes qui souhaitent le porter, c'est passer à côté de cette puissance révolutionnaire. La haine du voile chez celles qui le brûlent lors des manifestations ne renvoie à aucune altérité. Elles ne détestent pas le voile de leur mère, ni de leur grand-mère ou de leurs amis, mais le tissu dont on les emmaillote. La question qui se pose à cet endroit est celle du contrôle politique du corps des femmes par les gouvernements et partout dans le monde. Pour autant, il ne faut pas souscrire au raccourci qui consiste à dire « En Iran, on oblige les femmes à porter le voile et en France, à l'enlever ». En France, on oblige les femmes à enlever le voile et si elles ne le font pas, elles risquent d'être déscolarisées, licenciées ou humiliées devant leurs enfants. En Iran ou en Afghanistan, si elles retirent leur voile, elles risquent d'être torturées et tuées. Malgré tout ça, réduire ce qui se passe actuellement en Iran à une révolte contre le voile, c'est jouer le jeu des réformistes iraniens qui assimilent, je ne parlais pas dans le micro apparemment, la situation insurrectionnelle actuelle à une revendication vestimentaire. Tous les slogans demandent un changement de régime, aucun ne dit non au hijab. Quand les filles brûlent leur voile dans la rue, c'est une façon de s'en prendre à un pilier du régime. Elles le brûlent en disant « à bas la dictature » et il faut les écouter.
J'ai trouvé de drôles de rumeurs sur le gaz de schiste. Il paraît que ça pourrait contaminer les autres sources, que ça tuerait les cultures aussi. Certains ont dit qu'ils ont pu mettre le feu à leur eau courante. On parle aussi de cas de cancer. Ah, Steve, ça a l'air vilain, non ?
Il nous faut plus de preuves. Plus de preuves. Plus de preuves.
Attention ! On va en arriver à des extrémités ! Il y a des dépôts qui vont se mettre à flamber ! On va pas demander d'où ça vient !
Et oui, retour de la petite rubrique du gaz de schiste. Alors, pourquoi ? Figurez-vous que j'ai appris que Liz Truss avait démissionné hier. Alors, Liz Truss, c'est la première ministre du Royaume-Uni. Alors, ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de désagréable.
Elle a fait pire que Boris Johnson, ce qui est quand même une performance.
Voilà. En tout cas, j'ai découvert un peu tardivement qu'elle avait quand même fait assez fort sur le gaz de schiste pendant son court mandat. Donc oui, le gaz de schiste, on n'en parlait plus trop, le gaz de schiste et la fameuse fracturation hydraulique. En France, l'exploitation du gaz de schiste a été interdite en 2011. À l'époque, ça n'avait pas empêché les industriels d'essayer de se faufiler dans ce qu'ils appelaient les forages d'exploration, en disant en substance « ne vous inquiétez pas, c'est juste pour check ». Cette mascarade avait duré jusqu'en 2019, avec pas mal d'embrouilles autour des permis d'exploration-exploitation. 2019, justement, c'est l'année où la technique de fracturation hydraulique a été interdite au Royaume-Uni. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Liz Truss. Et oui. Alors, comme je vous le disais au début, donc, elle a démissionné hier. Donc, c'était la première ministre depuis le 5 septembre de cette même année. Mais pendant son mandat relativement court, elle a quand même trouvé le temps de lever le 22 septembre le moratoire sur la fracturation hydraulique. Elle avait déclaré à l'époque: le Royaume-Uni est devenu dépendant des prix mondiaux de l'énergie, qui ont grimpé en flèche. La Russie utilise sa production de gaz comme moyen de pression sur d'autres pays et nous ne voulons pas nous retrouver dans cette position. Donc, ce que je veux, c'est plus d'énergie locale. Et cela signifie utiliser les ressources de la mer du Nord, les énergies renouvelables, le nucléaire et aussi la fracturation hydraulique. Alors à l'époque, elle avait quand même glissé un petit énergie renouvelable entre le nucléaire, les hydrocarbures de mer du Nord et la fracturation hydraulique. Donc ça donnait presque envie de rigoler. Mais pas mal de personnes au Royaume-Uni n'ont pas du tout rigolé, d'autant plus qu'elle a annoncé dans la foulée que l'industrie schistière, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas je le dis, allait reprendre dans les 6 mois à venir. Alors à l'époque ça avait beaucoup râlé, enfin ça râle encore beaucoup, hein, et ça a réveillé pas mal d'inquiétudes, parce que la fracturation hydraulique, donc en Grande-Bretagne mais aussi ailleurs en fait, ce sont des tremblements de terre, des tremblements de terre et la pollution de nappes phréatiques. Mais alors quand en plus le British Geological Survey, admirez l'accent, indique qu'il n'est pas possible d'identifier toutes les failles géologiques qui pourraient héberger des tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 3, même les députés les plus conservateurs commencent à flipper. Alors globalement, au Royaume-Uni, ils ne semblent pas avoir un engouement de ouf pour le retour de cette technique maudite et de toutes les nuisances qu'elle apporte. Mais vu que Liz Truss a démissionné hier, on peut quand même espérer une espèce de annuler remplace pour que le Royaume-Uni revienne plutôt à la décision de 2019. Mais bon, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc j'allais dire affaire à suivre. Et du coup, maintenant, c'est l'agenda.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda !
Et alors l'agenda commence et c'est pas commun, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toujours plein de monde là-bas. C'est à Bourg-en-Bresse et c'est demain. Et bien demain, si vous êtes à Bourg ou si vous voulez y aller, de 10h à 13h, il y a un rassemblement suite à l'expulsion d'un squat et évidemment de nombreuses personnes qui se retrouvent à nouveau contraintes de dormir à la rue. Et c'est sur l'esplanade François Mitterrand, entre parenthèses, Carré Amiot. Alors moi je connais pas bien Bourg, mais c'est en plein centre-ville de Bourg. Et ben voilà, allez-y donc. Et ensuite, vous allez pouvoir vous reposer toute la semaine en lisant la brochure de désertion de l'emploi pour vous mettre à ne plus travailler finalement. Et vous pourrez samedi, bien en forme, aller à la rencontre débat autour de l'ouvrage La fabrique du progrès, scientisme, système technicien et capitalisme vert à la griffe. Zut, je ne pensais pas que c'était aussi drôle.
Ça rifouille.
En tout cas, c'est à la griffe et c'est de 15 à 18 quand même, donc 3 heures de rencontre-débat ce samedi. Dans le même élan, il y a une rencontre autour des livres des livres Les Chemins du collectif d'André Montret. C'est le collectif Classe qui organise ça. Ah oui, c'est pour parler. Il y a aussi des débats sur les nouvelles pédagogies, comment faire une école qui soit un peu moins dégueulasse. Non, c'est pas du tout dans le désordre. Le vendredi 28 octobre, vous pourrez aller à la présentation du livre 10 questions sur l'anarchisme. Ça, c'est à la Plume Noire et c'est de 19h à 22h. C'est l'Union communiste libertaire qui organise ça. Mais au milieu de tout ça, on me fait les gros yeux et j'ai failli me faire engueuler, mais tout était prévu.
Attention, parce
que auditeurs,
auditrices de Radio Canu, vous vous rendez compte que finalement, nous pompons notre agenda sur rebellion.info. Et rebellion.info étant un site participatif où chacun peut proposer des articles, il se trouve que personne n'a proposé un article concernant la journée du 27 octobre, où il se passe quoi?
Ben c'est la grève générale.
La grève générale, ouh.
Du coup, ensuite du mouvement de mardi, dont j'ai oublié la date, mais enfin bref, c'était ce mardi, vous savez bien, il y a la grève générale interprofessionnelle, c'est jeudi, c'est le combien ?
27 octobre.
Et je sais pas s'il y a déjà les horaires et les lieux de rassemblement, mais en tout cas, soyez prêts.
11h à la manufacture des tabacs.
Allez, par principe, voilà.
Et c'est l'heure du ACAB.
Et c'est l'heure, alors, c'est pas tout à fait l'heure du ACAB. Avant, on va écouter un morceau annonciateur de ACAB, un morceau des Chevals Hongrois qui s'appelle 49.3. Donc, Chevals Hongrois et pas mal d'énergumènes en plus. C'est parti.
Y a des oiseaux qui jaillissent, y a des oiseaux qui jaillissent, qui jaillissent. Y a des oiseaux qui jaillissent. Des méandres de mon cul, curriculum vidé de sa substance rétroactive. Je n'ai aucune qualité pour qualifier ma vie active. De l'art bête et triste qui me pousse à taguer des sottises. Je procède au procès de ceux qui suivent le processus qui consiste à concéder au progrès du consensus. À la queue le dans la matrice à maton, je mets des bâtons dans les roues motrices d'un avatar bidon. Bouffon, je le suis, je le dis en ces termes, car je m'autorise à rire de ce qui m'attriste dans cette vie terne. Pour ceux qui triment, j'aime voir à terme les vitrines maltraitées à la recherche du néant, car y'a Wallou sous les pas. À se pavaner, l'avarice glisse. Rue de la 5ème, République s'imbrique des brides de brigands influents. Dictocratique menteur, fouteur de beurre, de poisse, de pisse, de Panama Papers. Ouais, mœurs immondes, à trop au coin d'un feu, à coup de démonte pneus, au beau milieu de la ronde. Autant vomir son monde dans une grotte profonde. Alors qu'au fond, en fin de compte, 1-3-1-2, moins 49-3, c'est 819 raisons de les balancer du toit. 4 x 2, moins 1983. Trahison fatidique à la mémoire d'un crachat. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2, moins 49-3.
Qui veut que les fils de Fanon posent l'arme, hein? L'État nous baise et face on banon face à Strauss-Kahn. Super héros, patron, fais pas ton brosnan. T'es pas mon boss, man. Tant mieux pour toi si tu peux t'offrir le balcon dans la cage du baron Haussmann. Tes oreilles, j'ai séché comme une algue au soleil. Mon âme sommeille encore dans l'école communale. Au plus mal, j'étais 7 ans. Si, mais là, mon tonton, ça s'arrange. Gare à toi quand tombera l'avalanche. En zupoutant les îles, il faut que les liens tiennent. S'insérer ici, c'est se serrer dans une file indienne. À la vue d'un béret, les 5 yens. Son prix de frénésie, cet MC vient flairer les intérêts qui maintiennent encore la 5ème République. Les rubriques nous ont parlé d'un régime présidentiel unique en fin de règne qui n'imprègne plus l'imaginaire. Ceux qui dirigent détruisirent son héritage hier.
1, 2, 3, 3, 9, 5, 4, 9, 7, 9, 53 de raison de balancer du
cet MC. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent depuis bien avant 83. 1-3-1-2, moins 49-3. Ils trahissent.
J'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Canyon Info du vendredi.
Cher Marius, du coup, on a eu plusieurs appels et le premier nous disait attaque au creek Landra à Bure.
Et le deuxième, l'algorithme de la CAF, on arrête, c'est du bullshit.
Ah mais attends, mais parce que moi je pensais que l'algorithme de la CAF, basta.
Mais j'ai pas le papier sous les yeux des appels que les gens ont dit. Qu'est-ce qui était écrit déjà ? Ah oui, l'amicale des casseuses d'algorithmes bâtards. Voilà, et ben c'est la fin de ce Canu Info. On vous retrouve la semaine prochaine. Et puis dans quelques minutes, ce sera l'émission, votre émission préférée de métal.
Metal Tango ?
Ouais, de Metal Tango. Voilà, et on vous laisse en attendant avec les bandes continues. Voilà, bonne soirée. Ciao.
Bonne soirée.